Chaque samedi à midi, nous explorons les enjeux de notre époque, des débats parfois négligés par le politique et pourtant au cœur des préoccupations citoyennes.
Madame Verdurin fut outrée quand elle apprit que deux membres du petit groupe étaient invités sans elle à dîner à Féterne en petit comité. Elle dicta au docteur, dont le premier mouvement avait été d'accepter, une fière réponse où il disait « Nous dînons ce soir-là chez Madame Verdurin ». Pluriel, qui devait être une leçon pour les Cambremères, et leur montrer qu'ils n'étaient pas séparables de Madame Cottard.
Voici donc la voix du comédien Guillaume Gallienne lisant à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, la 100e et dernière vidéo d'un projet au long cours porté par la Comédie Française. 100 ans après son décès, Marcel Proust est partout. De Cabourg à Paris, où plusieurs expositions lui seront consacrées en 2022, à la maison de tante Léonie à Illiers-Combray en Eure-et-Loire, à sa Madeleine ou au parfum rappelant la belle époque et évidemment à l'antenne de France Culture. Si Marcel Proust est incontournable, qu'en est-il véritablement de son œuvre ? Je dois ici vous faire un aveu, je n'ai jamais lu Marcel Proust, ou plutôt, je n'ai jamais réussi à lire Marcel Proust. Trop long, trop aride, trop difficile, et finalement, après enquête, je suis bien loin d'être seule à éprouver cette difficulté. Comment dès lors expliquer cette passion pour l'écrivain devenu icône alors même qu'il est peu lu ? Qui sont aujourd'hui les aficionados du prix Goncourt 1919 ? À l'ombre de Marcel Proust, quel est notre rapport au texte dit classique et à ce patrimoine littéraire ? Peut-on faire découvrir et aimer cette littérature, notamment aux plus jeunes, quand le temps dévolu à la lecture s'amenuise, génération après génération. Bonjour Claude Poisneau.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de la lecture, enseignant-chercheur à l'IUT Nancy Charlemagne et au Centre de recherche sur les médiations de l'Université de Lorraine. Vous avez signé Sociologie de la lecture chez Armand Collin en 2019 et vous avez récemment publié un ouvrage collectif avec Amandine Jacquet et Nathalie Etienne, La bibliothèque, une approche politique adaptée au territoire, aux éditions territoriales. Alors, Claude Poisson, est-ce que vous avez lu Marcel Proust ?
Eh bien oui, pour l'exercice, bien sûr. J'ai lu Proust, mais je dois aussi dire que je ne l'avais pas lu avant. J'en tire ni fierté ni honte. Ce n'est pas un aveu, c'est un fait. Et alors donc l'expérience de cette lecture, ben, c'est l'expérience d'une chronique littéraire à l'évidence, sensible certainement, mais d'une société révolue. Et je pense que il y a là-dedans des éléments qui expliquent qu'on puisse ne pas lire Proust ou qu'on puisse abandonner sa lecture.
Alors justement, on parle de Marcel Proust et de À la recherche du temps perdu comme d'un classique, d'un monument du patrimoine littéraire. Mais qu'est-ce que c'est un classique ? C'est quoi ce patrimoine littéraire ?
Alors, je pense qu'il faut distinguer. C'est-à-dire, un classique, c'est produit par ce que Bourdieu a appelé le champ littéraire, c'est-à-dire l'ensemble des institutions qui participent à la définition de ce qu'est la littérature. Il est évident que Proust est fondateur, il est structurant, on va dire, du champ littéraire. Donc, le monde de la littérature a besoin de Proust, et alors réciproquement en partie pour la mémoire de Proust, mais Donc, en fait, c'est un mécanisme, c'est un processus qui produit des œuvres et des auteurs comme classiques.
Ça veut dire que, en fait, l'industrie littéraire, le champ littéraire, a besoin en fait d'avoir, de construire ce patrimoine, de construire des classiques. Pourquoi ? Pour valider sa propre existence ?
Oui, c'est-à-dire que pour que la littérature vaille la peine de, à la fois d'être produite, mais aussi d'être commentée, d'avoir une existence relativement autonome, il faut qu'elle ait des références incontestables, on va dire. Et c'est le cas de Proust.
Alors, les lecteurs du XXe siècle ont-ils eu du mal eux aussi à entrer dans la recherche du temps perdu ? Pour le savoir, on réécoute ce lieu de mémoire diffusé sur notre antenne en 1997 en compagnie d'Antoine Compagnon.
Les ventes nous le montrent très bien. Il n'y a que la moitié des acheteurs du côté de chez Swann qui achètent À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et il n'y a que la moitié des acheteurs d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs qui achètent la suite. Cela dit, une fois qu'ils achètent la suite, ils achètent toute la suite. Et donc, un vrai lecteur de Proust, on peut dire, c'est un lecteur de Proust qui est allé au-delà d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui a pris le côté de Guermantes et qui, du coup, et là les chiffres nous le montrent, du coup, est allé jusqu'au bout. Mais il y a effectivement les trois quarts donc, qui abandonnent avant le côté de Guermantes.
Alors, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il a toujours été finalement peu lu. Et on en fait quand même un patrimoine, mais qu'est-ce qui fait qu'il est patrimonial? C'est que même s'il est peu lu, c'est parce qu'il y a eu un Goncourt en 1919, c'est la dimension de labellisation.
Bon, je pense que c'est l'ensemble, c'est-à-dire qu'il a besoin d'exister structurellement, et puis aussi on a besoin d'un patrimoine, c'est-à-dire que la littérature, si elle n'est pas ancrée dans une histoire ancienne, avec des fondateurs, des références incontestées, ça n'existe pas en fait, hein, et la bande dessinée a fait la même chose hein, quand elle s'est construite comme champ. Donc là, on a besoin de ça. La question à mon sens, c'est justement la question de l'actualité de ce patrimoine et la question du partage de ce patrimoine avec les nouvelles générations. Et c'est là que, à mon avis, on peut un peu discuter. Le patrimoine, c'est l'héritage transmis par les générations passées. La question, c'est quelle est la place que les jeunes générations, les nouvelles générations accordent à cet héritage. Et de ce point de vue, je pense qu'il est intéressant de relever le fait que les nouvelles générations se pensent beaucoup plus comme porteuses d'une culture spécifique que les anciennes générations. Dans l'enquête de Frédéric Dabi qui est sortie cet automne, il relevait de façon très intéressante qu'en 57, 16% des jeunes reconnaissaient leur génération comme étant différente des précédentes. Aujourd'hui, on est à 89% qui sont dans ce cas-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la culture est devenue générationnelle. Et cette culture générationnelle, alors on peut, nous les vieux, etc., dire c'est une erreur. Bon, on peut le dire, mais la question, c'est que ça détermine le rapport des nouvelles générations à la culture patrimoniale. Et il me semble qu'une partie du sujet, c'est la relation entre les générations à travers la culture. Et Proust et les autres sont pris, à mon sens, dans cette discussion.
Ce qui ne veut pas dire, selon vous, en fait, que nous serions devenus des lecteurs fainéants, que nos envies de lecture en fait, auraient changé d'une génération à l'autre?
Non, il y a pas de, enfin, c'est juste la définition de la pratique qui est différente. Non, il y a pas de lecteur, feignant. Enfin, c'est un jugement de valeur, donc c'est problématique pour moi. Enfin.
Bon, alors justement, pourquoi cette fascination pour Marcel Proust 100 ans après sa mort? Reportage dans les allées de l'exposition Marcel Proust, un roman parisien, au musée Carnavalet à Paris, où Justine Leblond a tendu son micro à des lecteurs, et aussi, vous allez l'entendre, à des non-lecteurs.
Alors, est-ce que vous avez déjà lu Marcel Proust?
Oui, mais j'ai jamais été au bout, parce que c'est trop long. Ben moi, c'est pareil. J'ai calé au milieu.
Ça reste un peu un sort de mystère. Et puis, c'est très érudit, c'est très littéraire. Et donc, pour moi, ça reste difficile d'accès, Marcel Proust, je pense.
Comme Catherine, Solange et Christophe, nombreux sont ceux qui ont essayé de le lire, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et pourtant, ils sont tous fascinés par cette figure qu'est Marcel Proust.
Qu'est-ce qu'il y a chez lui de si particulier?
Lui, déjà.
Anne-Laure Sol est la commissaire de l'exposition dédiée à l'auteur.
Avec les différentes images qu'on peut avoir de lui, ce dandy, ce mondain, la société qu'il décrit, hein, qui est une société fascinante et une société qui a disparu. Effectivement, tous les visiteurs n'ont pas lu À la recherche du temps perdu, Le style voit la main. Mais je pense que tout le monde a conscience de la dimension universelle de son œuvre. Elle peut intimider parfois, elle peut décourager de temps en temps, mais elle conserve cette aura. Et je pense que c'est ce à quoi les visiteurs sont sensibles. Le premier partie est consacré à l'existence de Proust à Paris. Dans la deuxième partie de l'exposition, on va s'intéresser davantage à la place de la capitale dans l'œuvre.
Et donc là, on arrive dans sa chambre.
Oui, donc voilà le lit dans lequel effectivement l'écrivain a composé son roman. C'est également le lit, bien sûr, dans lequel l'écrivain est mort. Le musée d'Orsay nous a très généreusement prêté cette photographie de Man Ray qui a été prise peu de temps après sa mort, à la demande de Jean Cocteau.
À la sortie de l'exposition, on croise aussi des fervents lecteurs. Certains ont même des liens étroits avec son œuvre.
Je m'appelle Swan. Mon nom vient du livre de Marcel Proust et ma mère l'a choisi.
J'ai été marquée par l'œuvre de la recherche de Proust. Ça évoque des tas de choses ressenties et dont on n'arrive pas forcément soi-même à trouver les explications.
Est-ce que tu penses que tu liras toi aussi les livres de Marcel Proust ?
Il faudra quand même savoir pourquoi ma mère a choisi de m'appeler comme ça. Il faudra juste que je trouve le temps. Un jour.
La mère de Swan n'est pas la seule à avoir été marquée par Marcel Proust. Maxime Beuchet vit en Normandie. Admiratrice de l'auteur, elle l'a apprivoisé petit à petit.
Ce que j'explique souvent, c'est un peu comme quand vous faites un footing. Vous commencez votre footing, vous savez pas trop quel rythme prendre. Et c'est au fur et à mesure que vous courez que tout d'un coup vous vous installez dans un rythme. Et bien pour moi, la lecture de Proust, c'est cette expérience-là que j'ai eue. Donc en lisant Proust, c'est un petit peu mon marathon et j'en ai besoin terriblement.
De sa passion sont même nées des Madeleines de Proust au sens propre, idée qu'elle a eue à Illiers-Combray, une ville située en Eure-et-Loir qui a pris le nom fictif donné par Marcel Proust dans son livre, parmi les clients de Maxime Beuchet, des aficionados, des curieux ou tout simplement des gourmands.
La Madeleine rappelle, pour certains évidemment, un souvenir d'enfance. Cette expérience sensorielle dont parle Proust dans son texte. Il y avait 20 000 madeleines unités produites avant 1840. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes à 2 400 000. Et je pense que Proust, au-delà d'être le meilleur ambassadeur, il a sans doute permis l'ouverture d'un marché autour de la madeleine.
Et ce, à l'international, notamment au Japon et aux États-Unis, où l'on trouve des fans de l'auteur. Ambassadeur de la madeleine, mais aussi de la ville de Cabourg, appelée Balbec dans son œuvre, Marcel Proust a passé de nombreux étés à se balader sur ce front de mer normand, où la digue promenade a même été rebaptisée à son nom. Guylaine Leloutre anime des visites pour l'office de tourisme de la ville.
Proust est vraiment très rattaché à la Belle Époque et c'est une thématique qui fascine. Et comme Cabourg, c'est la Belle Époque, et ben c'est une évidence. Vous voyez, souvent, tout ce qui peut paraître un peu élitiste, aussi bien la lecture de Proust ou de l'architecture avec tout son vocabulaire qui peut quand même être complexe, mais mine de rien, ça intéresse les gens. Ça, c'est le plaisir du travail de la médiatrice, vulgariser les pensées de Proust et les transposer sur un lieu.
À chaque fois que Marcel Proust est venu à Cabourg, il a dormi au Grand Hôtel. Aujourd'hui, une chambre lui est dédiée, la 414. À 380 € la nuit, elle est demandée près de 300 jours par an.
Claude Poisseneau, on voit aussi à quel point dans ce reportage il y a une part de marketing territorial, de récupération. Finalement, Marcel Proust, même s'il n'est pas lu, on peut l'aimer parce qu'il représente c'est un parfait ambassadeur de l'art d'être français, de cette belle époque d'un Paris, d'une France en fait peut-être idyllique qu'on voit avec une certaine nostalgie.
Oui, et puis c'est aussi la mise en scène de la singularité. Et pour reprendre le titre d'un ouvrage intéressant, La société des singularités, je pense que nous sommes dans un monde très sensible à cette dimension.
En quoi Proust est-il singulier ?
Ben, il est construit comme singulier par son histoire, par son œuvre, mais aussi par les commentaires, par sa vie. Mmh. Et finalement, voilà, il incarne une forme de singularité qui le dépasse, bien entendu, et une singularité reconnue. Et il illustre, il incarne ce qui est l'idéal de l'individu contemporain, c'est-à-dire un individu qui à la fois est lui-même et qui bénéficie d'une reconnaissance de la part des autres. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de lire Proust. En fait, ce qu'on a besoin, c'est de faire l'expérience par procuration d'une identité singulière reconnue. Et c'est ce qui nous intéresse. L'accès, c'est-à-dire qu'il faut penser comme ça, l'accès à l'universel, c'est plus vertical. On prend une œuvre et on reçoit la culture sur la tête. En fait, ça peut plus marcher aujourd'hui de cette manière. Pourquoi ? Parce que les individus sont construits comme différents. Ils sont construits des définie par notre société comme devant être relativement autonome. Et pour être autonome, il faut savoir dire « je ». Mais dire « je », c'est pas simple. Dire « je », ça suppose d'avoir des modèles, d'avoir une reconnaissance de ce « je » qu'on propose. Et l'artiste est celui qui est ce modèle, l'expression de soi, qui donne lieu à reconnaissance. C'est l'universel par le singulier. Et...
Ce qui veut dire, dans ce que vous nous dites, que en fait, Marcel Proust est un symbole que certains tentent à atteindre, qu'il y a une dimension aussi expérientielle. On évoquait la Madeleine dans ce reportage à l'instant, la nécessité d'aller voir sa chambre au musée Carnavalet, de retracer en fait la promenade Proust à Cabourg. C'est-à-dire que là, on se met dans les pas de l'artiste, et quand bien même on ne l'a pas lu, en fait, il y a une dimension de proximité symbolique,
de participation à quelque chose qui est une singularité reconnue. Et en fait, on n'a pas besoin de s'appeler Proust. Il suffit, alors quand le temps le permettait, il suffit d'aller dans les salons littéraires. En fait, beaucoup de gens qui vont dans les salons du livre, à Nancy, on a le livre sur la place, mais on voit bien, les gens viennent voir des stars. Et en fait, ils n'ont pas forcément lu le livre, c'est pas le problème. En fait, pour eux, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la participation, c'est être en relation avec quelqu'un qui bénéficie d'une aura que sa production, sa création lui fournit. C'est l'idéal de l'individu.
Et on veut d'où l'expérience donc de cette chambre d'hôtel de Cabourg qui est louée 300 jours
absolument.
Par an.
Oui, absolument.
France Culture. Sous les radars, Nora Hammadi.
Moi, je déteste l'idée que la littérature puisse être élitiste. Je déteste l'idée de théâtre élitaire pour tous. La littérature, c'est pareil, en fait. On est toujours pris dans cette conception, finalement, très élitiste de l'enseignement, où dans les classes, il y a les bons, les moyens, les mauvais. Et en fait, quand c'est comme ça que tu leur dis « Ok, moi, je vais vous donner des règles, mais qui vont être tyranniques, enfin, voilà, sur certains trucs. » Genre, Alexandra Racinien, si tu m'enlèves une syllabe, je vais vraiment m'énerver. Enfin, je vais être très fâchée. Mais à côté de ça, par contre, tu y vas avec ce que tu es, qui tu es, ou voilà, ou lecture d'une scène, tu me fais un compte-rendu, au lieu de faire des questions de lecture à la con, quoi. Je leur disais, vous faites un dessin, vous traduisez la scène en dessin, ou alors en photo avec vous, voilà, vous faites une sorte de, tu vois, roman photo avec trois photos, comment toi tu représentes la scène. Et donc, tu passes comme ça, en fait, toujours par d'autres chemins. En fait, c'est toujours l'idée des chemins de traverse, quoi. Il y a décomplexé la représentation qu'on a du texte, en fait. Parce que ces textes, comme tu dis, patrimoniaux, sont mis dans des sortes de vitrines, comme ça, tu vois, un peu comme les œuvres d'art africaines ou ébranlées. C'est mis dans des jolies vitrines, tu vois, mais du coup, c'est figé. Et c'est présenté comme le top du top du top. Tu ne peux y accéder que si tu fais de longues études, des heures de travail, machin. Alors, c'est pas vrai du tout, quoi. En fait, je pense que c'est pas seule une question de rapport classique à l'enseignement. Le rapport des profs eux-mêmes au texte, je pense, doit être vivant et sorti de toutes les pressions de l'institution, parce que voilà, le métier est social même. Et je leur dis, mais en tout cas, voilà, on désacralise cette idée-là aussi, qu'il faut avoir tout lu, parce que ça écrase, en fait. Et si tu veux, ils ont tellement d'années de retard à un moment, mais comme tout le monde, tu vois, à force d'entendre qu'ils sont nuls et qu'ils lisent pas et qu'il faut lire. Et moi, je leur dis, non, mais il faut pas lire, en fait. Un de tes droits de lecteur, c'est de ne pas lire. C'est de sauter des pages et c'est de lire en diagonale quand ça t'ennuie. Mais c'est vrai que l'oralité, la théâtralisation et la conversation, parce qu'en fait, c'est le principe du salon littéraire, mais ils s'en rendent même pas compte. Et à la fin, tu leur dis, en fait, on a fait un salon genre comme au XVIIe siècle avec les aristocrates, quoi. Ils disent, non, je dis si. Et ils te sortent des trucs géniaux. Donc, tu notes juste ce qu'ils disent et tu montres que ça, c'est super intéressant. Mais il faut être prêt à ne pas attendre des formules toutes faites. C'est-à-dire que soi-même, en tant que prof, il faut casser notre propre rapport à l'enseignement de la littérature. Et ça, c'est pas toujours évident.
Voilà pour le témoignage de Julie, qui est professeure de lettres et de théâtre au lycée français de Kinshasa, au Congo. Sarah, qu'on va entendre tout de suite, est quant à elle professeure des écoles en maternelle et primaire.
En fait, le problème, c'est qu'à l'école, on est dans une culture de la rédaction, on est dans une culture de l'écrit. Donc la lecture, c'est sérieux. Sauf que la lecture, c'est de l'histoire et de l'apprentissage, et ça se transmet par l'oral. Mais on n'est pas dans une culture de l'oralité. On n'est pas l'écoute. C'est encore plus compliqué, je trouve, que la lecture parfois. Donc c'est juste qu'il faut. C'est un changement de perspective, un changement de regard. Mais il y a tout un travail à faire sur ce rapport à l'écrit, qui est très très prégnant, très, très majoritaire. Pour moi, l'idée des classiques, c'est vraiment cette idée de transmission qu'il y a toujours dans l'enseignement. Hein. Un classique, si on l'apprend, c'est pour transmettre quelque chose. Et en soi, si c'est l'objet de la transmission qui est intéressant, peu importe sa forme. Si vraiment il y a des réticences et des difficultés de lecture, on ne va pas empêcher un môme d'accéder à ça parce que la forme n'est pas adaptée. En fait, c'est à la forme d'être adaptée. Et du coup, c'est pour ça que la BD, ça marche bien. Des fables mises en BD, des contes mis en BD, ce genre de choses. On le voit aussi avec les adaptations littéraires en film. Pourquoi pas ? C'est une autre manière de s'approprier les classiques. Et en tout cas, le visuel et l'image, ils marchent très bien pour les enfants. Et l'objectif de l'enseignement, c'est de s'adapter aux enfants. Hein. Tout le monde n'est pas pareil. Certains auront des difficultés que nous, on ne pourra pas forcément lever. Ils n'auront pas les contextes pour les aider à les lever. Ça ne doit pas les empêcher d'accéder à quelque chose qui a fait sens commun il y a des générations.
Pour faire lire les textes, finalement, on ne doit pas entrer par le texte. Il y a une dimension presque paradoxale. On entend la nécessité de décomplexer, de démystifier. Donc pour entrer dans les classiques, il faudrait casser les classiques.
Ben, c'est-à-dire que ce qui est frappant dans les témoignages, c'est cette tension, cette équation impossible dans laquelle se trouvent les enseignantes. Et à la fois, il faut transmettre, et en même temps, comment faire ? Enfin, c'est-à-dire, en fait, on a des injonctions qui sont contradictoires. C'est-à-dire que les enseignantes se retrouvent à devoir transmettre quelque chose, mais elles sont obligées d'adapter, quoi. Les programmes sont un peu faits pour un élève idéal, mais qui n'existe pas, en fait. Et donc, du coup...
Ça veut dire que l'institution qu'est l'éducation nationale, dans la constitution de ses programmes, notamment dans la dimension du rapport au texte, aux lettres, etc., elle est hors sol ?
Mais on pourrait dire que, c'est le danger. Hein. Il faudrait nuancer, bien entendu, mais on peut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on prend pas en compte l'élève réel, et on préfère s'adresser l'élève idéal plutôt qu'à l'élève réel, quoi. Et évidemment, quand on a les élèves en face, on est bien obligé de composer avec ce qu'ils sont. Et c'est ce désarroi qui est frappant.
Et qu'est-ce que vous pouvez répondre du coup quand on peut avoir des gens qui disent oui mais ça veut bien dire qu'en fait le niveau global des élèves a chuté, qu'ils ne sont plus capables d'aller au bout d'un texte, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
Moi je serais tenté de répondre que la culture c'est pas un bloc qui doit se transmettre de façon exactement similaire. Je veux dire, la culture c'est de la réécriture, c'est de la régénérescence, et je pense que on le voit bien sur l'orthographe. La réalité est plus forte que le jugement qu'on porte dessus, et donc la réalité l'emporte. Donc moi, ce que je dis, c'est que il y a une nécessité de réécriture de la culture. Les nouvelles générations s'en emparent à leur manière. Évidemment, ça peut ne pas plaire aux tenants de l'institution, mais après tout, je veux dire que les enseignants à l'université sont pas seulement, c'est pas forcément à eux de définir quelle est la politique pédagogique, etc. Il y a d'autres considérations. Les élèves existent en vrai, et dans une société dans laquelle la culture générationnelle est beaucoup plus forte, et c'est un acquis des boomers, dans cette société-là, il faut en prendre acte.
Alors, retour en 2014, Claude Poisson, Fleur Pellerin est ministre de la Culture et de la Communication du gouvernement de Manuel Valls. Elle est invitée de l'émission Le Supplément sur Canal+. Et Patrick Modiano vient de se voir décerner le prix Nobel de littérature.
Votre livre préféré de Modiano ?
C'est pas sympa.
Le dernier.
Non, j'avoue, sans aucun problème, que je n'ai pas du tout le temps de lire depuis 2 ans.
C'est vrai ?
Ouais, c'est vrai. Je lisais pourtant beaucoup. Oui, je lis beaucoup de notes, je lis beaucoup de textes de loi, je lis beaucoup de les nouvelles, les dépêches AFP, mais je lis très peu.
Ah oui, mais il faut vous ménager un moment pour ça, c'est quand même très important. On a un prix Nobel de littérature, Madame la ministre.
Oui, je sais.
Qu'est-ce que ça veut dire, Claude Poisson, quand une ministre de la Culture avoue quitte à se faire étriller par la presse française et internationale, qu'elle ne lit plus.
Ben, le roi est nu, enfin, il y a un éléphant au milieu de la pièce, et puis c'est elle qui le dit. Et donc, elle était la moins bien placée pour le dire, quoi. Elle a été mal conseillée, à l'évidence. Bon,
donc mais qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la culture quand un ministre, enfin, à la lecture, pardon, quand un ministre de la culture, en fait, peut se permettre cet aveu, même si c'est une erreur?
Mais en fait, je pense qu'il faut accepter l'idée que la lecture n'est, enfin, et la littérature n'est plus au cœur de la fabrication des élites en France. Je regardais la Légion d'honneur, 1,6% des décorés sont des personnalités du livre. Voilà, bon, ben, voilà, ça donne une indication.
Mais est-ce à dire que le livre est mort et que ou le livre est en déclin, alors même que lors du premier confinement, tout le monde s'est battu en disant que le livre était essentiel, que les libraires ont pu garder leur librairie ouverte, que nous avons tous, en fait, potentiellement, nous sommes dépêchés pour aller en acheter, pour faire des stocks. Qu'est-ce que cela raconte?
Ça nous dit que la lecture et la littérature devient une niche. C'est-à-dire que c'est plus le cœur de la culture partagée, évidente et légitime. Non, la lecture et la littérature devient une niche comme les autres. Alors c'est une forme de banalisation, de sécularisation, donc c'est très inconfortable, très désagréable, mais c'est ça que ça nous dit. Et ça fait déjà un moment que, en réalité, la maîtrise des classiques littéraires n'est pas nécessaire à l'accès aux élites, en fait. On a besoin de connaître l'existence de Proust, mais pas de le lire, bien entendu. Et je pense que...
Et ça a changé. Ben, on avait, par exemple, des présidents de la République, des ministres qui étaient parfaitement érudits, il y a encore quelques décennies.
Oui, et qui se targuaient de l'être. Mais évidemment, on voit bien, Malraux, le premier ministre de la Culture, est un grand littéraire. Fleur Pellerin, ben non, mais c'est que, entre-temps, le monde a changé aussi, et que la littérature n'est plus ce point central. Et il faut juste en accepter l'idée, et d'une certaine façon, moi je dirais que c'est une chance, parce que un des enjeux, c'est la question de l'appropriation personnelle. Si vraiment on veut que la littérature soit appropriée par les nouvelles générations, il faut laisser aux nouvelles générations la possibilité de s'approprier cette culture. Et c'est une des difficultés. Tous les discours sur « il faut lire, c'est bien la lecture, on va faire quelque chose pour favoriser la lecture », tout ça produit un formidable effet pervers qui est que ça empêche les jeunes dans leur appropriation personnelle de la pratique. Or, c'est seule cette appropriation personnelle est en mesure de garantir une appropriation durable de la lecture et de la littérature. Donc, moi je serais tenté, alors des fois je dis ça en plaisantant, mais je pense qu'il faudrait interdire aux jeunes de lire. Ce serait peut-être le plus efficace. En fait.
Mais ça veut dire que, en fait, c'est le livre qui est en déclin ou c'est la lecture qui est en déclin?
Mais la lecture se porte extrêmement bien, mais c'est juste qu'elle passe par des supports qui sont totalement différents. La lecture aujourd'hui, les jeunes n'arrêtent pas de lire, mais ils lisent sur leur portable. Pourquoi le portable? Le portable, c'est un instrument qui me connecte au monde en permanence. Alors, on peut dire que c'est une erreur, etc. Oui, on a le droit d'avoir un jugement, mais c'est ça. Et la différence, c'est aussi que on peut communiquer avec cet outil. Cet outil donne des informations qui se renouvellent, c'est plus en phase avec la manière dont ils se définissent aujourd'hui.
Et ce que j'entends, c'est que le livre aujourd'hui n'est plus le levier de distinction que ça a pu être.
Non, à l'état vestigiel, un petit peu, il y a des traces. Fleur Pellerin, elle s'est fait avoir, quoi. Mais je pense que ça correspond pas à la réalité de la place de la littérature dans la fabrication et dans la vie des élites.
Voilà, nous avons donc changé d'époque. Merci beaucoup, Claude Poisson, de nous avoir éclairés. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien entendu réécouter cette émission, ainsi que toutes les émissions autour de Proust, le podcast sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à Louise André qui l'a réalisée, Jordan Fuentes à la technique aujourd'hui.